Natale, dicembre vi ha scelto a prim'ora vesperale di v'amore dispensata un funesto temporale. Ogni tempesta e soffria la contrada, nuova piana cuminedo dalla neve accampata. C'era una onda di capre all'amore te condannata. Spicera lo pastore, corse verdi l'alta sera, dai orghe risuonava un ruggio a fiumara. Quando chiama questino, non c'è forza chi ubara.
Bonsoir, chers amis, auditeurs. Ce soir, Jacques Trémollet de Villers nous fait défaut. Je crois qu'il est en convalescence en Auvergne, m'a fait-il dire. Et je reçois avec très, très grand plaisir Jean-Philippe Delsol, l'avocat bien connu des cabinets Delsol.
Absolument.
Vous êtes plusieurs.
Eh bien, j'ai deux fils maintenant qui travaillent
au cabinet Delsol. Et alors, Jean-Philippe Delsol, ben, je le connais depuis très longtemps, puisque j'ai connu même son père.
C'est vrai.
Du temps où il était à Lyon et où il était le président, je crois bien, de la section d'Action française, je crois me souvenir. En tous les cas, j'allais lui rendre visite avec déférence. C'était un grand professeur De biologie, c'est ça.
À l'époque, à la faculté catholique de Lyon.
Oui. Et il a été l'un des premiers abonnés à Politique Magazine.
Ah ben vous voyez, je ne savais pas.
Je vous le dis, ce qui était tout à son honneur. Alors, je vous reçois, et donc vous êtes fiscaliste, vous êtes en même temps un peu philosophe, on va dire. Hein,
on peut le dire.
Puisque nous avons eu l'occasion de prendre des repas ensemble et de faire de la philosophie ensemble, parce que j'aime bien cela et vous aimez bien cela visiblement aussi. Et vous avez écrit un certain nombre de livres que je recense régulièrement.
Et je vous en remercie, cher Hilaire, voilà, merci.
Le dernier, c'était conservateur...
Ou libéral,
pourquoi pas les deux. Et j'apprécie énormément votre liberté d'esprit, même si sur certains sujets, je suis un petit peu moins libéral que vous, mais après tout, aujourd'hui, dans notre société, il vaut mieux être libéral dans le sens... Pas dans le sens gauchard du terme.
Tout dépend ce qu'on appelle
bien
libéral.
Sûr, voilà. Bien sûr, il ne s'agit pas de libéral, libérer l'avortement, libérer le suicide assisté, etc. Il s'agit de toute autre chose. Alors, je vous pose des questions, vous me permettez?
Vous voulez dire un petit mot déjà pour vous présenter? Juste un mot pour vous remercier de m'inviter et vous dire le plaisir que j'ai de discuter avec vous, parce qu'il y a de vieilles connivences.
Oui, c'est ça. De très vieilles connivences même. Bon, et alors, je fais appel à vous parce que j'aimerais avoir votre avis. On va commencer par le début. Vous êtes fiscaliste.
C'est vrai que j'ai cette tare, je suis fiscaliste de profession.
Oui, mais à l'heure actuelle, on a besoin de fiscalistes.
Et puis la fiscalité, en fait, c'est de la politique.
Bien sûr.
Parce que, et ça occupe même beaucoup la politique, parce qu'en fait, presque toutes les décisions politiques se traduisent en ressources et ou en dépenses publiques. Voilà.
Et on l'a vu dernièrement encore, avec cette bataille sur le budget, qui finalement passe au 49-3, après avoir dit et juré que jamais on n'utiliserait le 49-3, il est passé au 49-3, et c'est un budget, votre avis,
bah général. C'est un budget socialiste.
Voilà, c'est un budget socialiste, c'est les socialistes qui l'ont fait.
Et c'est rien de le dire, parce que c'est peut-être plus même que socialiste.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un socialisme avancé par rapport à celui qu'on a connu, et incontestablement, notre gouvernement a été une sorte de gouvernement des lâches.
Oui, c'est ça. Oui, voilà. Oui.
Mais vous savez,
ou plus pire que ça, pas simplement des lâches, mais on va dire des
démagogues et des lâches.
Oui,
oui je dis ça parce que en réalité, souvenez-vous, le Premier ministre en tête, son ministre des Finances avec lui, n'avait qu'une seule obsession, et il disait régulièrement à la radio, à la télévision, dans les journaux. Vous savez, moi, mon rôle, c'est d'avoir un budget.
Oui.
Alors, je suis là pour avoir un budget. En fait, on se posait la question. Oui, mais enfin, un budget, c'est pas
pourquoi
un objectif.
Faire
pourquoi faire? Ah non, non. Mon rôle, c'est d'avoir un budget. Alors, il était prêt à tous les compromis.
La continuité
je lirais
de la
toutes
France
les compromissions.
Dépendait du budget.
Voilà, toutes les compromissions pour avoir un budget. Alors qu'en réalité, vous savez, il y a plein de pays. Enfin, plein. Oui, il y en a un certain nombre, mais il y en a des très proches de nous qui ont vécu longtemps, qui
sans
vivent
budget.
Encore sans budget. L'Espagne vit depuis 3 ans sans budget.
Oui, il y en a même qui vivent sans gouvernement.
Et il y en a même qui. Alors, la Belgique a vécu au cours des 15 dernières années pendant près de 3 ans, 2 ans et demi sans budget, avec des gouvernements qui sont des gouvernements provisoires.
Oui.
Et en fait, dans ces cas-là, ça se passe très très bien.
Oui.
Pourquoi
oui.
ça se passe très bien? Mais parce que quand il n'y a pas de gouvernement, quand il n'y a qu'un gouvernement qui ne peut prendre que des actes, je dirais, de. Du quotidien,
de gestion quotidienne,
eh bien, dans ce cas-là, en fait, je vais utiliser un gros mot. S'il n'y a pas de gouvernement, ben, ils ne peuvent pas emmerder les électeurs.
Ouais,
voilà. Je reprends le mot de Pompidou,
oui,
c'est pour ça que je me permets.
Oui.
Mais c'est ça, c'est Pompidou qui disait
oui, arrêtez
d'emmerder les Français.
Bien voilà. Sûr,
et donc,
sûr.
En fait, il avait raison. Et alors, le meilleur moyen de ne plus le faire, eh bien, c'est que le gouvernement soit à minima. Et quand il n'a pas de budget, ben, il ne peut pas changer les règles. Alors les Français retrouvent tout d'un coup, les gouverner d'une manière, un peu de stabilité,
oui.
un peu d'horizon,
oui.
un peu de tranquillité.
Oui.
Et du coup, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent plus, ils
oui.
gagnent de l'argent.
Oui.
Voilà, ils sont heureux.
Et là, maintenant, avec le budget que nous avons aujourd'hui...
C'est un budget qui n'a pas de sens.
Oui.
Il n'a pas de sens parce que, en réalité, j'allais dire tout ça pour ça. C'est-à-dire... tout ce remue-ménage et tant d'impôts nouveaux.
Beaucoup,
bien sûr. Tout ça, pourquoi? Pour conserver à la fin autour de 5% de déficit.
Voilà.
Ils ont annoncé un peu moins. Il n'est pas impossible que ce soit un peu plus.
Ça sera plus,
voilà.
comme chaque année.
Mais,
comme chaque année.
Mais comme chaque année, vous savez, quand une affaire va mal, ça va toujours plus mal que ça va mal. Et pour les États, c'est pareil.
Amélie de voilà. Montchalin a annoncé 5%, mais elle est partie à la Cour des comptes. Et quand elle sera à la Cour des comptes, elle sera obligée de constater que c'est 6%.
Et elle dira, c'est scandaleux, le gouvernement n'a pas des bonnes prévisions.
Mais,
ah ben oui, mais
elle
sauf,
touchera ses 20 000
sauf
euros.
Que c'est un peu gênant parce que c'est elle qui a prévu. Voilà.
C'est ça.
Mais on le sait déjà, hein, y a des dépenses, par exemple la Sécurité sociale... ce sera très probablement plus que prévu,
plus,
etc.
Oui. Bien sûr, bien sûr.
Et comme la Sécurité sociale, c'est quand même c'est lourd, hein, c'est 20 milliards de déficit.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait...
Ben c'est la plus grosse partie du budget public, de l'ensemble.
Alors l'ensemble, voilà. Ben oui, c'est plus de 600,
c'est 700 milliards
de dépenses sociales. La France est minée par les dépenses sociales. C'est pour ça qu'elle n'a plus de dépenses régaliennes. Elle ne peut plus faire de dépenses régaliennes.
Elle est minée par les recettes sociales. Tout entrepreneur le sait. Moi, j'ai été entrepreneur pendant une partie de ma vie. Eh bien, chaque fois que je payais un salaire, j'en payais le double.
Mais bien sûr. Et les Français ne le savent pas suffisamment.
Non.
Quand on leur donne 100 euros à eux, net, dans leur portefeuille, ils ont encore des impôts à payer.
Oui.
Mais l'entreprise, elle... Elle paye à peu près la même chose.
Exact,
à peu près la même chose. Pas loin de la même chose. Parfois un peu plus, même pour les cadres qui ont des complémentaires et autres. Et donc, en fait, c'est le pays du monde, je crois, qui paye les charges sociales les plus lourdes.
Oui.
Et en fait, tout ça...
Les prélèvements obligatoires les plus lourds.
Les prélèvements obligatoires les plus lourds, le plus de dépenses publiques.
C'est plus de 50% maintenant, les prélèvements.
Alors, non. Dépenses publiques. On est, disons, autour de 57%.
Oui, c'est ça.
Et prélèvements obligatoires, on est... Alors, Alors, prélèvements obligatoires. L'État français annonce moins de 45%.
Oui, tu parles.
Mais en réalité, il fait des comptes trompeurs. Je vous donne un exemple.
Allez-y, c'est très intéressant pour nos auditeurs.
Qui est insensé. C'est-à-dire que, en fait, ils ont une manière de comptabiliser les choses, par exemple pour un certain nombre de crédits, qui font que ils ne les prennent pas en compte dans le déficit de la nation.
Par exemple, les pensions des fonctionnaires.
Ben, prenons l'exemple des pensions. Voilà, c'est un très bon exemple. Les fonctionnaires, en fait, qui sont pour certains des gens remarquables et pour d'autres des imbéciles comme tout le monde, partout. Les fonctionnaires, en fait, ont depuis longtemps, pour des raisons complexes et multiples, un régime spécial de retraite. Alors, ce régime de retraite est un régime pour l'essentiel par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui payent la retraite. Mais l'État dit, ah oui, mais en fait, on manque de cotisants, et donc le régime est très déficitaire. Et en fait, il le cachait dans un compte qui est rattaché au budget, mais qui ne se voyait pas jusqu'à il y a quelques deux ans, je vais expliquer pourquoi. Il taisait l'importance des sommes qu'il avait à prévoir et à apporter pour combler le trou de ce régime de retraite. En réalité, en gros, il a imaginé de verser des cotisations retraite inimaginables. Alors, je vais situer pour nos auditeurs. Un employé d'une entreprise privée, il paye, j'arrondis, 11% de son salaire brut en retraite, et l'entreprise en paye 16,5%. Alors, l'État fait à peu près la même chose, en réalité un petit peu moins. L'employé privé, il paye 11,5%. L'employé public, le fonctionnaire public, il va payer 11%. Il a rattrapé parce qu'autrefois, il payait beaucoup moins. Ça, c'est bien. Il paye normalement, tout le monde, il y a égalité de traitement. Mais par contre, là où l'employeur privé paye 16,5% du salaire brut,
L'État,
lui, paye désormais une cotisation pour ses fonctionnaires civils de 85%. C'est-à-dire pratiquement 5 fois plus. Pratiquement 5 fois plus que le privé. Pourquoi ? Parce que, en fait, voilà, il y a un trou. Alors, l'État dit, c'est parce que j'ai pas assez de cotisants. C'est en partie vrai, c'est pas qu'il y ait moins de fonctionnaires, il y en a toujours plus. Mais en réalité, depuis quelques années, l'État embauche de plus en plus des contractuels. Et il y a aujourd'hui à peu près 20% de contractuels, donc il manque des cotisants parce que les contractuels ne versent pas leurs cotisations au service public, mais finalement comme les employés du privé. Donc c'est en partie vrai, mais en partie seulement. La vérité, c'est que ce manque à gagner représente un versement de plus de 40 milliards par an, 40 milliards d'euros par an.
Oui. Hein, et qu'il faut trouver.
Qu'il faut trouver, 2,5 de PIB. Oui. Et en réalité, bien, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques cotisants qui manquent, mais il y a surtout le fait que les fonctionnaires bénéficient de mesures plus favorables que dans les autres régimes. Ils peuvent globalement partir plus tôt, avec moins d'annuités, et surtout avec une retraite très supérieure en moyenne, puisqu'ils partent avec 75% salaire moyen des 6 derniers mois.
Ça, oui.
Alors que dans le privé, on prend les 25 dernières années, et ça représente en moyenne 50%, voire moins.
Oui.
Tout dépend, mais 50% au moins. Pour les petits salaires, mais au-dessus, beaucoup moins. Alors même que les cotisations ne sont pas plafonnées, sauf à un montant très important. Donc, en réalité, globalement, si vous voulez, ben voilà, les fonctionnaires coûtent très très cher, et en plus, une partie de ces sommes n'est pas donc intégrée dans la prise en compte des prélèvements obligatoires. Alors, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que les fonctionnaires nous répondent « Oui, mais le traitement à 75% des 6 derniers mois, c'est seulement sur le salaire et pas sur les primes. » Oui, mais sauf qu'ils oublient de dire une chose. Ils oublient de dire une chose, c'est que ces fonctionnaires, qui, à l'égal du gouvernement, sont vent debout contre toute retraite par capitalisation, eux, ils ont créé pour eux, mais uniquement pour eux, système de retraite par capitalisation, qui est abondé en plus, et c'est en plus des 40 milliards et quelques que je vous ai donné, qui est abondé pour moitié par l'État, sur leurs primes. C'est-à-dire que sur leurs primes, ils contribuent par des cotisations à une autre forme de retraite, qui est le RFP, qui est une retraite par capitalisation, et qui marche très bien. Ils veulent, ça, ils veulent que ce soit pour eux, mais pas pour les autres. Ce serait trop dangereux que les autres bénéficient d'un bon régime. Bon, je suis bavard, hein, donc on s'éloigne un peu du sujet.
Non, pas du tout, c'est très intéressant. Mais alors, est-ce qu'il est possible de changer quoi que ce soit dans ce budget qui est, dans le fond, indéfiniment repris? J'ai étudié à un moment dans mes études la question budgétaire, la question financière, et alors je me suis intéressé à la façon dont la loi de finances était votée. Mais à mon avis, je ne sais pas comment, sauf les spécialistes comme vous, comment les gens peuvent s'y retrouver. Parce que pratiquement, on reporte d'année en année exactement les mêmes chapitres, sauf qu'on rajoute un pourcentage de plus, quoi. En gros, ça se ramène à ça. Aussi bien du côté des dépenses que du côté des recettes. Donc il faut avoir davantage de recettes parce qu'on sait que de toute façon, il y aura une augmentation des dépenses. Mais on ne voit pas comment pourrait intervenir là-dedans l'esprit même d'une réforme. C'est-à-dire, on voit autrement les choses, l'État n'est pas forcé de s'occuper de tout, on peut peut-être séparer les budgets. Pourquoi Juppé a-t-il éprouvé le besoin de faire voter par l'Assemblée nationale, par les députés, le budget de la Sécurité sociale? C'est parce qu'il voulait que le ministère des Finances mette la main dessus.
Bien sûr.
C'est ça. Parce que à l'origine, les retraites, c'était quand même... Les retraites, elles nous appartenaient. Enfin, en principe, ma retraite, elle m'appartient. Et à la limite, c'est à moi de la gérer. Et d'ailleurs, toutes les retraites professionnelles étaient toutes bien gérées. Vous avez parlé de celles des fonctionnaires, mais les avocats, c'était connu.
Mais la retraite des avocats va très bien, sauf qu'on la pille.
Sauf qu'on la pille.
La pille tous les ans.
Voilà,
L'État la pille.
Alors, ma question, c'est comment pourrait-on envisager... qu'un homme politique devant un désastre national qui peut venir, demain on peut se trouver dans une véritable banqueroute.
Vous posez deux questions, en fait. Oui. Il y a une question technique et puis il y a une question politique.
C'est ça.
Et presque philosophique. La question technique, c'est comment se passe le vote du budget? Et là, effectivement, il y a ce qu'on appelle les services votés.
C'est ça.
Alors, les services votés, ça veut dire que chaque année, en fait, on ne va pas recommencer à se poser la question et avoir un débat à l'Assemblée nationale, dans les deux chambres, pour dire « Ah, mais alors, les fonctionnaires, il y en a combien, etc. » Non, il y a des fonctionnaires, ils sont là, service voté. Et c'est le poste le plus important.
Oui,
c'est la
sûr.
Paye. Hein. Bon,
sûr.
C'est normal, d'ailleurs. Mais enfin, c'est normal. C'est normal que ce soit important, mais il y a 6 millions de fonctionnaires en France. Hein.
Oui,
donc,
oui.
Sous statut, et j'ai dit tout à l'heure que c'était 80%.
C'est une dépense de fonctionnement considérable.
Considérable, bon. Donc, qu'il y ait des services votés, on peut le comprendre parce qu'on ne va pas se reposer les questions sur ce qui est renouvelé, parce que c'est nécessaire, sur les services d'entretien des bâtiments publics, par exemple. Il faut bien les renouveler. Mais, par contre, on pourrait quand même se poser quelques questions de principe chaque année. Et ce qui est vrai, c'est que la facilité fait que souvent, on entraîne les parlementaires à se disputer éternellement sur des questions de détail, en passant à côté des questions essentielles.
Sur des questions idéologiques.
Et qui sont des questions idéologiques. Alors, c'est là que le deuxième aspect, c'est l'aspect politico-philosophique.
Oui.
C'est l'État-providence. Le vrai problème, c'est l'État-providence.
Bien sûr.
En réalité, quel est le rôle de l'État?
Très bien.
Mais
vient à une question très importante.
Et voilà, et c'est ça qui est fondamental. Et donc, je pense pour ma part que...
Sur ce plan-là, je vous suis totalement.
Voilà, que le rôle de l'État, c'est de permettre... Je vais faire un tout petit peu de philosophie.
Oui,
mais simple,
il le faut.
Le rôle de l'État, pour moi, c'est de permettre aux personnes qui vivent dans ce pays, dans le pays qu'ils gèrent, de s'accomplir. C'est-à-dire, d'autres diraient, j'allais dire que Saint Thomas ou d'autres diraient, de pouvoir trouver une vie bonne. On appelle ça aujourd'hui le bien commun. Mais le bien commun est un fourre-tout dont je me méfie un peu.
Bien sûr.
J'aime mieux la vie bonne. Oui. Les Américains parlent de trouver leur bonheur. Je pense que d'ailleurs, c'est pas tout à fait ça. On traduit ça comme ça en français. Pour moi, c'est plus rechercher. La Constitution américaine dit rechercher, laisser à chacun rechercher son bonheur. C'est plutôt rechercher la vie bonne, je pense.
Oui.
Car c'est ça la véritable fin de l'État.
Et donc la sécurité, justice.
Permettre aux gens de vivre dans un État sécurisé. C'est pas donner, distribuer des droits aux gens, parce que les droits A, ça n'existe pas. On n'a pas des droits sur les autres, sauf quand les autres le consentent. Mais à ce moment-là, c'est plus d'un droit, c'est une sorte de contrat. Et donc, on n'a pas de droits A, ces droits créances dont on nous bassine.
Et bien sûr, et qui devient l'essentiel maintenant.
Et qui devient aujourd'hui l'essentiel. On a des droits liberté, c'est-à-dire que on a en fait un droit à la vie, c'est peut-être le seul droit créance que nous ayons, parce que nous arrivons dans ce monde sans le vouloir.
Et qu'on supprime d'une certaine manière.
Et que on nous le supprime aujourd'hui.
Maintenant, l'avortement est constitutionnalisé.
Et l'euthanasie, pareillement. C'est une suppression du droit à la vie, d'ailleurs.
Des deux côtés.
Exactement.
Macron sera responsable de la mort de 200 000 gosses, 300 000 gosses par an.
Il n'est pas le seul à être responsable là-dessus.
Non,
Macron.
Non, enfin,
l'euthanasie, oui. Mais...
Il a tenu à le constitutionnaliser. C'est-à-dire, quand même, il a.
Oui, malheureusement, c'est pas nouveau, quoi.
Non, c'est pas nouveau.
Mais ceci dit.
Et maintenant, ce sont les invalides, les malades, déficients mentaux,
Pour le reste, c'est bien le rôle de l'État. C'est ça, c'est de faire en sorte que les gens vivent librement parce que, en fait, l'État ne peut pas savoir quel est notre bien. C'est nous qui savons quel est le bien que nous cherchons.
Bien sûr.
Et d'ailleurs,
c'est notre finalité.
Notre finalité.
Oui.
Et d'ailleurs, nous le savons qu'avec beaucoup de précautions.
Bien sûr.
Qui peut prétendre connaître la vérité ? On peut être certain, soi-même, on peut avoir une conviction profonde, mais on ne peut pas l'imposer aux autres. On peut essayer de la faire partager,
oui.
On ne peut pas l'imposer. Or là, l'État, finalement, définit le bien pour nous. Il nous impose un bien, et il nous impose de le donner aux autres. C'est ça les droits créances qui nous imposent à tous. Et qui sont des charges considérables qui nous font perdre notre
liberté
pour rechercher notre propre bien.
Bien sûr.
Et ça, je crois que c'est véritablement la cause fondamentale des difficultés que nous vivons, sachant que dès lors qu'on n'a plus cette capacité, parce qu'il n'y a plus de sécurité, parce qu'on est tellement pompé, entre guillemets, par les impôts qu'on n'a plus les moyens, on reçoit un salaire qui est minable, parce qu'il y a la moitié du salaire
qui
fout le camp dans des organismes mal gérés, etc.
Oui, oui, oui.
Ou qui sont parfois bien gérés, mais qui nous donnent plus qu'on ne devrait avoir.
Oui, oui.
Et donc, en fait, la cause de tout ça, la conséquence de tout ça, elle est laquelle ? Eh bien, la conséquence de tout ça, elle est que nous n'avons plus de responsabilité. Parce que pour être responsable, il faut être libre. Et si nous n'avons plus de liberté, si l'État fait tout pour nous, nous dicte tout, nous dit ce qu'il faut faire et ne pas faire, alors nous n'avons plus de responsabilité. Nous désapprenons la responsabilité, c'est-à-dire que nous prenons l'habitude de ne plus être responsable.
Exactement.
Et c'est, je crois, la cause de beaucoup de nos misères d'aujourd'hui.
Et bien sûr, et en particulier pour les familles.
Par exemple.
Quand un père de famille n'exerce plus sa charge véritable... Eh bien, effectivement, il y a des problèmes qui se posent.
Mais tout bête. Tout bête, si un père de famille
n'a
plus le droit de donner une fessée.
Oui.
Moi, ça m'est arrivé de donner à l'un de mes 6 enfants une fessée.
Oui.
Et je vais vous dire, ils s'en sont bien remis. Hein.
Oui, bien sûr.
Et ça ne leur a pas fait.
Et on en a tous reçu.
Voilà.
Et on n'en est pas mort.
Et très franchement, je pense que ça leur a plutôt servi.
Évidemment, et alors on se sert des
Bien sûr,
il ne
faut pas exagérer. Bien sûr, il ne faut pas martyriser les enfants. Bien entendu, il faut le faire avec... beaucoup de pondération, d'intelligence, de discernement. Mais quand la loi vient se mêler de la gestion des familles, comme vous dites, c'est stupide. Mais aujourd'hui, elle ne se mêle pas que seulement de la gestion des familles. Elle se mêle de la gestion de tout.
De tout, des communes, des métiers, des professions. Un pêcheur ne peut plus être un pêcheur. Un agriculteur ne peut plus être un paysan. Il est encadré.
Ah oui, l'État, voilà, l'État fait, voilà, veut tout encadrer. Alors, comme il n'a pas les ressources nécessaires toujours, il fait des choses absolument incroyables. Par exemple, vous vous souvenez de cet épisode, c'est Sarkozy qui n'était pas pourtant socialiste a priori, enfin qui souvent avait des réflexes socialistes.
Oui. Ils ont tous des réflexes socialistes.
Ils en ont tous, c'est vrai.
À chaque fois ils peuvent pas s'en empêcher. Ils sont à la tête d'un État qui est socialiste.
Alors, j'avais trouvé ça très drôle. Enfin, si je puis dire, parce que c'est plutôt triste. Les pêcheurs souffraient, ils souffrent toujours, les pêcheurs. Mais bon, ils souffraient. Ceci dit, j'entends rarement des commerçants, que ceux qui le sont parmi nos auditeurs veuillent bien m'excuser, qui disent quand ils sont satisfaits, ils disent plutôt quand ils ne le sont pas, et on les comprend.
Et les paysans, c'est un peu la même chose.
Donc les pêcheurs venaient se plaindre, et alors Sarkozy a eu cette trouvaille. Il a créé une taxe sur les poissons pour trouver des ressources pour aider les pêcheurs. Mais si vous voulez, c'est quand même un peu drôle parce que les pêcheurs, ils vivent de leur pêche. Pour vivre de leur pêche, il faut qu'ils vendent leur pêche. Si on commence par augmenter le prix de leurs poissons avec la taxe pour leur redonner, je trouve que on atteint là le sommet
Et combien d'opérations dans le budget de l'État se ramène à ça.
Et il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais en citer plein comme ça.
Je te prends dans une poche et ensuite, tu deviens mon obligé parce que c'est moi qui te donne la prime.
Et voilà. Et avec ça, alors je vais vous en donner un autre exemple du même ordre. Un autre exemple du même ordre. Et vous avez parfaitement raison. Par lequel, en fait, en disant qu'il veut sauver les uns ou les autres, l'État, en fait, les emprisonne.
C'est ça.
Les emprisonne dans le carcan d'une idéologie, dans le carcan, finalement, de règles qu'il impose à tous. Alors, je vais prendre l'exemple du cinéma. L'exemple du cinéma, ben, je ne sais pas si vous savez, chers auditeurs, que quand vous allez au cinéma, vous payez votre billet, il est souvent de plus en plus cher, d'ailleurs, mais en fait, dans ce billet, il y a une taxe. Comme les billets d'avion. Mais enfin, là, cette taxe, elle est extraordinaire, parce que cette taxe, elle a été imposée pour donner des subventions au cinéma. Alors donc, on donne des subventions au cinéma, et puis on les récupère en vous taxant. Et alors, pourquoi est-ce que l'État fait ça? Ben parce qu'en fait, comme ça, il impose son idéologie. Yes. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, le CNC, c'est-à-dire l'organisme qui redistribue ses subventions, va imposer, pour que les producteurs aient des subventions, qu'ils embauchent comme acteurs, par exemple, des gens genrés.
Voilà,
vous savez ce que ça veut dire, genrés. Il faut un peu de tout. Alors, un peu de tout à tous égards. Non seulement la couleur de la peau, ce qui n'a aucun sens. Alors, on fait jouer des noirs blancs et des blancs noirs. Enfin, bon. Mais aussi le genre.
Oui, bien sûr.
Un petit peu comme vous le comprenez. Voilà. Bon, tout ça. Mais c'est odieux.
Odieux.
Mais pourquoi est-ce qu'on nous impose des règles pareilles?
Odieux.
C'est scandaleux.
Et ça, je dois dire que c'est quand même le bon côté de Trump. On peut critiquer pour des quantités d'autres raisons, mais il veut libérer l'Amérique de cette espèce d'idéologie contraignante.
Alors, c'est vrai que c'est le paradoxe de cet homme qui n'a pas de vie bonne, que d'essayer de protéger la vie bonne des autres.
Oui,
bon,
c'est ça.
Dieu soit loué, il a ses mystères, voilà. mais c'est vrai ce que vous dites. À cet égard, je dirais que ce qu'il a fait peut-être de plus vertueux, c'est son combat anti-woke.
Oui.
Il a essayé de remettre les universités sur leurs pieds.
En particulier.
Voilà, sur leurs pieds. C'est-à-dire que dans les universités, on a...
Une femme est une femme et un homme est un homme.
On apprenait à déconstruire.
Oui, c'est ça.
Alors que l'université, par définition, est faite pour apprendre à construire.
Oui,
construire des raisonnements, construire pour les ingénieurs des routes, des usines, etc. Enfin, construire tout. Construire des lois, construire... etc. Eh bien, on apprenait à déconstruire. Et ça, c'est dramatique. Mais vous avez plein de questions.
Alors, Et ce sont les auditeurs qui sont passionnés, visiblement, par ce que nous sommes en train de dire. Alors, je prends connaissance en même temps que je vous les lis, parce que ça s'adresse évidemment à vous.
À nous, sans doute.
À nous. Bonsoir. En Belgique, l'essentiel des compétences appartient aux trois régions, Wallonie, Flandre et Bruxelles. L'enseignement et la culture étant dévolus aux trois communautés linguistiques. Voici pourquoi les pannes au niveau des pouvoirs publics fédéraux ne paralysent pas le pays. il y a des analogies avec la situation espagnole où les autonomies régionales sont très étendues. Alors, allez au bout de votre réflexion et demandez-vous si le choix maçonnique de concentrer toute la gestion du pays à Paris est efficace. Pour ma part, je sais bien que la créativité et l'énergie bouillonnent près du terrain. Le jour où la France se démaçonnisera assez pour dégorger Paris au profit de vraies régions assises sur l'histoire et les cultures, bien des choses changeraient pour le mieux. Bien à vous.
Alors d'abord, merci de cette observation,
plus qu'une question, que
je partage presque entièrement. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, ce qui est maçon, pas maçon, à mon avis, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le plus important dans votre observation, cher auditeur. Par contre, là où vous avez totalement raison, c'est que les pays dans lesquels il y a une vie subsidiaire, c'est-à-dire qu'il y a une vie à la base, eh bien, elles sont beaucoup plus libres, beaucoup plus vives, beaucoup plus dynamiques, a priori. Et alors, le meilleur exemple que vous ne citez pas, mais que je vais citer, c'est celui de la Suisse, évidemment. On va nous dire, oui, mais la Suisse est un petit pays. Oui, et alors, je vais prendre un autre exemple, celui des États-Unis, précisément, qui est un pays fédéral. Et c'est important. C'est-à-dire que le gouvernement central ne peut pas tout faire.
Absolument. Ils ont gardé ce statut d'État fédéral.
Ils ont gardé ce statut. Et il y a un exemple extraordinaire, d'ailleurs, à partager avec des lecteurs de Radio Courtoisie, c'est celui de l'avortement. Alors en Europe et en France en particulier, on a crié au scandale parce que la Cour suprême, il y a 3-4 ans, aurait, d'après ce que racontaient les journalistes français, aurait finalement supprimé l'avortement. Pas du tout. La Cour suprême est revenue à un texte formidable et considérable, qui est la Constitution américaine, qui a été bâtie il y a 250 ans maintenant et à peine amendée depuis, c'est dire la force de ce texte.
Bien sûr.
Parce que plus nous, on a changé beaucoup plus. Voilà.
Nous, on a 50 pages.
On a déjà fait plusieurs constitutions successives et on les change tout le temps. Oui. Eux, pas du tout. Et donc, la Cour suprême a dit, mais ce pouvoir de dire si on peut ou pas avorter, c'est pas à l'État fédéral, elle n'a dit que ça, la Cour suprême. C'est pas au niveau de l'État fédéral qu'il faut en décider. C'est au niveau de chacun des États, des 50 États américains. Et c'est là que ça se décide, parce que c'est là que le débat existe vraiment, que les gens se confrontent de manière plus constructive que destructive. Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Oui.
Voilà. Et alors, je donnais l'exemple suisse parce que il est encore plus extraordinaire, en ce sens que c'est d'abord une confédération encore, et dans cette confédération, aujourd'hui, on a des dépenses publiques qui sont infiniment moindres qu'en France. Les dépenses publiques, alors en France, je vous ai dit tout à l'heure que c'était de l'ordre de 57%, une année c'est 56, une année c'est 58. En Suisse, c'est plutôt de l'ordre de 30%. Bon, c'est évidemment, on est loin de tout là. Et en plus... en Suisse, il y a pratiquement la dette publique est pratiquement interdite. Enfin, il y a ce qu'on appelle un frein à l'endettement qui empêche de s'endetter trop.
Comme en principe pour l'État. Comme pour les communes françaises.
Absolument, exactement. Et en fait, il y a trois stades, les communes, les cantons et puis le gouvernement confédéral. Et chaque stade, en gros, prélève à peu près un tiers des ressources. Et notamment au niveau des communes, bien sûr, mais même des cantons, qui ne sont pas des très grosses entités. La Suisse est un petit pays. Quand il y a des dépenses à faire, eh bien, il y a le référendum derrière.
Bien sûr.
Et il y a un référendum qui fait que, en fait, les gens sont complètement impliqués parce que s'ils veulent un gymnase, les autorités publiques vont leur dire, nous, on n'est pas forcément contre, mais il faut que vous en décidiez parce que, vous voyez, un gymnase...
Ça coûte.
Surtout si on y ajoute une piscine. Alors là, les piscines, c'est toujours très coûteux. Et donc... Oui, on peut le faire, mais alors il faut que vous sachiez que ça va vous coûter 100 francs suisses de plus par an dans vos impôts. Alors est-ce que vous êtes d'accord? Et on fait voter. Et là, les gens, ils sont complètement responsables.
Oui, et d'ailleurs, ils votent.
Et ils votent, et ils sont responsables. Alors en France, passer à un système comme celui-ci tout de suite, là, d'un coup de baguette magique, je pense que ça ne fonctionnerait pas parce que les gens ne sont pas habitués.
Oui.
Et surtout.
Ils attendent tout.
Et surtout, ça ne fonctionnerait pas parce que en France, les communes. Les départements, les régions n'ont pas de ressources propres. Alors, on a baptisé ressources propres des allocations d'impôts d'État qui leur sont données. Mais ce ne sont pas des ressources propres. Ils n'ont pas la maîtrise de leurs ressources.
Et quand il y en a, par exemple, comme la taxe foncière ou la taxe d'habitation, l'État prétend les contrôler.
Exactement. Donc, les communes ne sont pas libres de leurs ressources. Et donc, ça ne peut pas fonctionner.
Alors, autre question. Ça, c'est pour vous. Bonsoir. Grâce à M. Macron, les avocats ont pu, au dernier moment, être exclus du régime général des retraites. Le régime de retraite des avocats est excédentaire de quelques milliards. Pourquoi ne pas intégrer ces milliards d'excédents de cotisations pour améliorer la réforme des retraites ? Réforme voulue et votée sous l'ère macroniste par le 49-3. Merci cordialement.
Alors d'abord, bon, c'est un problème... Je ne connais pas les chiffres précisément du régime des retraites des avocats. Ceci étant, ce que je sais...
J'avais lu un article sur le sujet, je crois que c'est très bien géré.
C'est plutôt bien géré. Ce que je sais, c'est que chaque année, l'État demande au régime de retraite des avocats de reverser une dotation fixée par l'État, arbitrairement, au régime général. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que nous demande cet auditeur, c'est déjà le cas. Alors, et depuis des années et des années, les avocats qui versent des cotisations sont pillés au profit des autres régimes. Bon, alors, je dis pillé parce qu'en fait, la vraie difficulté, c'est que...
Est-ce que les avocats donnent leur accord ?
Mais non, c'est ça, la vraie difficulté, c'est que la retraite, dans le principe, c'est une sorte de contrat.
Mais bien sûr.
C'est une sorte de contrat.
À l'origine, c'est
quand
ça.
Quand on paye une cotisation, on la paye parce qu'on accepte de la payer pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, parce qu'en échange, il y a un contrat moral, en tout cas, politique, qui fait qu'on sait que ceux qui vont nous suivre dans le même métier ou dans le même régime vont payer pour nous. Ce qui est vrai aussi, et c'est, on va plus loin que la question bien sûr qui nous est posée, mais ce qui est vrai aussi, c'est que oui, le régime par répartition est un régime qui, en fait, n'est pas tenable dans le temps.
Certainement plus dans tous les cas.
Puisque la démographie s'effondre.
C'est ça. C'était possible dans les années 40, mais maintenant...
Exactement. Et donc, il faut trouver d'autres solutions, et il n'y a pas d'autre solution que la capitalisation. C'est la seule solution, et c'est une bonne solution, car en fait, je la résume ainsi, et je vous donne un exemple, je résume en disant que, en fait, avec un régime de capitalisation géré de manière prudente, comme l'est par exemple le régime des fonctionnaires, eh bien, en payant deux fois moins de cotisations, on aurait la même retraite qu'aujourd'hui. Et je prends un exemple, aux Pays-Bas, où l'essentiel du régime est fondé sur la capitalisation, les Néerlandais payent un tiers de moins de cotisations que les Français, et ils ont un tiers de plus de retraite que les Français. CQFD.
CQFD, comme vous dites, voilà. Oui, bien sûr.
Donc, en fait, si vous voulez, il faut arriver à passer progressivement à la capitalisation. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. C'était extrêmement difficile.
Mais les socialistes n'en veulent pas.
Ben, ils n'en veulent pas, mais de toute façon, on sera bien obligés. Sinon, ce sera l'explosion.
Oui.
Donc, il va falloir y arriver. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. C'est possible parce que les régimes de capitalisation sont tellement plus productifs qu'ils permettent justement d'assumer la transition.
Merci, cher ami. Alors, bonsoir. Quid des cotisations de retraite versées alors que le cotisant meurt avant d'atteindre l'âge ? J'estime que les cotisations dans ce cas devraient être rendues à leur conjoint, enfant ou même parent, courtoisement. Patrick Meunier.
Votre proposition est tout à fait compréhensible. Par contre, c'est un modèle différent du modèle que nous avons aujourd'hui en France.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, les cotisations que vous évoquez sont perdues parce que toutes nos cotisations sont considérées comme des cotisations de solidarité. Il n'y a pas, en fait, on parle encore de cotisations, ce sont des impôts.
Bien sûr, ce sont des impôts.
C'est-à-dire que les systèmes assurantiels, tant pour la retraite que pour la maladie, etc., sont petit à petit démolis.
Ce n'est plus un contrat, c'est une allocation.
C'est une allocation
vieillesse.
C'est ça.
Et l'État en est le maître, et c'est lui qui déterminera avec si jamais la réforme de Macron était passée, c'était lui qui déterminait les points et qui, chaque année, en fonction des recettes, fixait le montant de la location. C'est monstrueux parce que c'est le contraire de tout esprit, de l'esprit même de la retraite. Je mets de l'argent de côté. En fait, à l'origine, je mets de l'argent de côté et mon patron m'aide à mettre de l'argent de côté parce que c'était ça entre les deux guerres et même avant, même sous l'Ancien Régime. C'était on met de l'argent de côté pour pouvoir en profiter quand on ne pourra plus travailler. C'était ça. Donc, c'est mon argent, c'est moi qui le mets de côté avec l'aide, bien sûr, des institutions, mais il est protégé. Et je me le garde à moi, c'est à moi de le gérer.
Vous avez 100% raison, Hilaire. Je vais vous raconter une petite histoire.
Allez-y, je crois que ça passionne nos auditeurs.
Vous avez raison parce que, en fait, les régimes issus de la résistance croient qu'ils ont découvert l'eau tiède, là, avec la retraite par répartition. Effectivement, ils ont inventé un système explosif à terme. Mais la retraite, ce n'est pas eux qui l'ont inventée, comme vous le disiez.
Mais bien sûr.
En fait, il y a eu, dès le 19e siècle, des systèmes de retraite qui ont été constitués par les professions ou les syndicats, des sociétés mutuelles.
Les
patrons catholiques aussi.
Il faut le dire, parce que ça a existé et ils n'ont pas tous été méchants.
Et qui reposaient généralement sur la capitalisation. C'est-à-dire les gens versaient des cotisations comme s'ils les versaient dans une tirelire. Et le syndicat, la mutuelle, le gérait et restituait le jour où les gens partaient à la retraite avec des pensions. Ça marchait si bien que Jaurès, par exemple, je vous rappelle que c'était un bon socialiste, il défendait mordicus ce système de capitalisation. Oui. Il y a des textes remarquables de Jaurès sur la capitalisation. Mais pour être tout à fait honnête, ceux qui ont démoli le système de capitalisation qui marchait très bien, ce sont successivement et le pétainisme et la résistance. Ils l'ont fait l'un et l'autre, l'un après l'autre, en commençant par Pétain et en continuant avec la résistance, parce que, manquant d'argent, ils ont purement et simplement confisqué les capitaux qui avaient été accumulés par les caisses de retraite privées de capitalisation des mutuelles, des syndicats que j'ai évoqués. Ils les ont nationalisés. Et en échange, ils ont offert une retraite par répartition.
C'est ça.
Mais ça a été du vol pur et simple.
Oui,
il faut le savoir.
Oui, bien sûr.
Alors aujourd'hui, on s'en mord les doigts et on ne sait plus comment revenir à la capitalisation.
Alors, nous avons un intervenant qui est Monsieur Bobineau.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Merci, Monsieur Bobineau, et chers amis, faites le nécessaire. Alors, bonsoir. Les décisions politiques peuvent aussi se traduire par des morts en masse et un pays effacé de la carte. Monsieur Macron serait en discussion avec son double british qui partage avec lui un taux de satisfaction étonnant, mais aussi la brillante idée de fournir des têtes nucléaires, oui, c'est des dernières actualités, à leur petit copain partagé, le tyran de Kiev. Ceci est en violation flagrante des accords de non-prolifération, ce qui donnera une base légale pour des rétorsions russes, mais aussi américaines. La Russie a averti que toute frappe entraînerait une réponse sur les pays impliqués. La charge russe standard est de 800 kilotonnes, soit 50 fois Hiroshima. Mais une bonne guerre ne permettrait-elle pas d'imposer la loi martiale, la confiscation des avoirs privés, la fin totale des libertés et le pouvoir pour la clique des élites sur fond de grite recette du capitalisme financier axé sur le dieu dollar? Bonne soirée à vous. Voilà. Eh bien oui, cher ami, mais ce n'est pas notre sujet du moment, mais vous avez...
Ce n'est pas vraiment notre sujet.
On va en parler tout à l'heure peut-être un petit peu. Oui, vous dites... Répondez
vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des questions extrêmement complexes. La vraie question, c'est peut-on avoir aujourd'hui des défenses nationales suffisamment pertinentes sans les sans les configurer en relation avec celles de nos pays voisins, partageant globalement peu ou prou ce que je vais appeler les mêmes valeurs. Oui. Ça peut être discuté. Je ne pense pas. Je pense qu'on est obligé aujourd'hui de trouver les moyens d'avancer ensemble. Ce qui ne veut pas dire d'avancer dans un même pot.
On voit bien la difficulté avec l'Allemagne aujourd'hui, puisque l'Allemagne veut se constituer maintenant ses propres entreprises d'armement. Et évidemment, la seule chose qui l'intéressait quand elle faisait ses affaires avec la France, c'était de récupérer toute la technologie française. Elle l'a fait pour l'aéronautique.
Elle l'a
fait pour Eurocopter, elle l'a fait pour. Elle voulait le faire pour le SCAF, mais là, Dassault, enfin Trappier, a dit non.
Et
à mon avis, il a eu raison.
Et il a eu raison, c'est-à-dire qu'en fait, il me paraît éminemment souhaitable que nous conservions notre souveraineté et que chaque nation conserve la décision.
Oui.
Mais l'idée que nos armements puissent être coordonnés et construits de telle façon. Qu'il soit utilisable en association avec les armées voisines pour se défendre, c'est nécessaire, car aujourd'hui, la France ne représente rien. Nous sommes une nation complètement désarmée en cas de guerre contre la Russie, mais ça c'est évident.
Contrairement à ce qui se dit, ce qu'essaye de faire dire le Macron à ses généraux.
Mais c'est pas possible.
En réalité, comme disent les gens avertis, on tient 3 jours. Voilà,
on tient 3 jours. Alors, la seule arme que nous avons qui est forte, c'est l'arme nucléaire.
Oui, c'est ça.
Les autres pays européens ne l'ont pas.
Et
on a des accords entre nous.
On a 3 régiments extrêmement performants.
Voilà, mais quelques sous-marins nucléaires. Et, enfin, voilà. C'est pas rien, hein, l'arme nucléaire, quand même. Les sous-marins nucléaires sont probablement... Ben, moi, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là, mais je trouve que ça me paraît être... Mais donc, je ne trouve pas forcément idiot qu'il y ait des accords à cet effet... pour réarmer l'Europe de manière coordonnée et non pas de manière désordonnée. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Alors,
on n'a pas les moyens de faire autrement.
Bien sûr. Mais une question qui revient à nos problèmes philosophiques. Pensez-vous que le pouvoir du politique, c'est le pouvoir pour l'individu de prendre conscience de sa place dans la société et d'exercer un pouvoir réel sur cette société dans laquelle il vit ?
Alors, c'est une question assez générale, mais je crois que ça revient à ce que nous disions tout à l'heure. En fait, chaque homme, chaque personne, pour moi, chaque personne, est responsable de sa vie, et on ne peut pas être responsable de sa vie sans se sentir aussi responsable de celle des autres, car nous vivons dans des communautés.
Bien sûr.
Et donc, tout est lié. Mais c'est aussi important de dire l'un que l'autre.
Oui, oui.
Il n'y a pas de responsabilité de la personne pour elle-même sans la responsabilité au sein de la communauté et vice-versa. Et donc, en fait, il faut trouver ces équilibres qui sont toujours instables. L'Occident, que je défends, qui a trouvé ses valeurs de liberté
de
inhérente à l'homme et donc de responsabilité, non pas comme des fins, ni la liberté ni la responsabilité ne sont des fins, pas plus que la propriété qui les soutient, mais sont des moyens indispensables à la réalisation de nos fins. Et c'est dans cet esprit que, effectivement, il faut arriver à construire en permanence une société qui respecte tout ça et qui n'est jamais figée. C'est-à-dire que parce que la société change, elle progresse ou elle régresse parfois, et donc il faut s'adapter. Mais bien entendu, vous avez raison dans ce que vous dites, et ça traduit ce que nous disions tout à l'heure par la vie bonne.
Alors, bonjour, arrêtez de taper sur les fonctionnaires. En tant que fonctionnaire d'État, je m'occupais du salaire des fonctionnaires locaux d'un canton, mairie et maison de retraite. Sur une centaine de fonctionnaires, un seul cotisait à la Préfond. Ce n'est pas un raz-de-marée de capitalisation. De plus, dire qu'il y a 6 millions de fonctionnaires est stigmatisant. Sur 6 millions de fonctionnaires, il y a seulement 2 millions de fonctionnaires d'État.
Et alors ?
Et évidemment, il y a la territoriale et puis il y a
l'hospitalière.
Le reste, c'est des fonctionnaires locaux et hospitaliers. Quel est le Français qui veut moins de cantonniers, moins d'infirmières, moins de policiers ? Bien courtoisement.
Ah, cher monsieur, cher auditeur, je vais vous dire, mais... Mais bien sûr qu'il ne s'agit d'aucune manière, je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, très sincèrement, de stigmatiser les fonctionnaires. Vous n'y pouvez rien d'ailleurs. Et je pense que les fonctionnaires, en fait, sont victimes du système. Pourquoi dis-je ça? Parce qu'ils sont dans un système qui les déresponsabilise, justement. Et en fait, ce que je veux dire, prenons l'exemple de l'hospitalière. Les chiffres, c'est plutôt d'ailleurs 2,4 millions pour la fonction d'État, 2 millions pour la... je crois que c'est oui, ça, hein, oui, pour l'hospitalière et le reste pour les collectivités territoriales. Bon, mais prenons l'exemple de l'hospitalière. Pourquoi faut-il que l'infirmière, le médecin, qui est dans un hôpital public, ait un statut de la fonction publique? Alors que son confrère, sa consœur, qui est dans la clinique voisine, ne l'a pas et que ça se passe très bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que un statut de la fonction publique n'a pas de sens. Et un statut de la fonction publique dans des métiers autres que ceux qui en ont besoin pour la protection de l'individu, je pense aux métiers régaliens, c'est-à-dire, on comprend très bien que les policiers, ils ont besoin d'un statut spécial parce que, voilà... Ils doivent être protégés non seulement dans leur intégrité physique et morale, mais aussi, j'allais dire, vis-à-vis de leurs subordonnés et de leurs supérieurs pour être suffisamment autonomes dans leurs responsabilités. Encore plus les juges. Il faut qu'ils soient indépendants. C'est nécessaire.
Bien sûr.
Donc un statut peut très bien se comprendre. Pour un infirmier, un médecin, un cantonnier... Et alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un statut de la fonction publique pour être cantonnier? Si vous me démontrez le contraire, cher monsieur, enfin je dis monsieur, c'est peut-être une dame qui nous a posé cette question.
Non, je crois que c'est un monsieur.
Un monsieur. Alors, cher monsieur.
Un auditeur.
Un auditeur, bon. Eh bien, si vous me démontrez le contraire, je serais ravi, mais vous n'y arriverez pas.
Mieux vaudrait un contrat.
Mieux vaudrait un contrat et un contrat. Pourquoi pas un contrat de nature civile? Alors vous savez ce qui s'est passé dans plein de pays. Et je vais vous citer, par exemple, un pays qui était plutôt collectiviste un peu, la Suède. Il y a 20 ou 25 ans, ils se sont rendus compte que c'était crétin de multiplier comme ça des statuts pour des gens qui n'ont rien pour en justifier. Et ils ont supprimé le statut de la fonction publique pour tous ceux qui n'avaient pas de raison d'en avoir un, du jour au lendemain. Et ça s'est très bien passé. Et ils ont réussi à réduire à la fois leur personnel et leur prélèvement, leurs dépenses publiques.
Oui, et bien il y avait moins de gestion.
Et parce qu'il y avait moins de gestion, c'était... Voilà, on pouvait récompenser les gens, donc en fait, on attirait des meilleurs talents, les gens étaient plus actifs parce qu'ils se sentaient plus impliqués, etc. Ils savaient qu'ils pouvaient être récompensés. Tandis qu'aujourd'hui, je vais prendre un militaire, il avance, lui, à l'échelon, hein. Ou alors en cherchant à se faire bien voir du... Bon, mais c'est pas très sain, tout ça. Bon. Et alors, un autre exemple, la Suisse. Oui. Même chose. Elle avait un statut de la fonction publique pour tous ceux qui étaient payés par de l'argent public. Bon, elle a supprimé ça. Ça s'est très bien passé. Et ça a permis de faire des économies.
Chers auditeurs, on a beaucoup de questions. Alors, j'en pose encore une. Mais comme je voudrais qu'on avance dans notre réflexion commune avec, avec mon ami Jean-Philippe Delsol, donc j'en lis encore une. On verra pour le reste plus tard. Les États-Unis sont un État fédéral, certes, mais la différence avec le fédéralisme de Bruxelles ne réside-t-il pas dans une définition claire des compétences de chacun dans l'élection du pouvoir fédéral par les représentants des États américains, alors que la Commission n'a aucune légitimité et que ses compétences s'étendent dans un véritable coup d'État permanent? D'autre part, l'Europe nordique et ses multiples petits États constituent un bloc d'intérêts et de cultures proches, avec une représentation excessive au Parlement et dans les postes de responsabilité. Il suffit de voir la lamentable Callas à qui on confie une diplomatie européenne qui consiste pour elle dans l'usage de l'insulte et des propositions délirantes.
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question.
Sur la question de l'État fédéral.
Mais alors, sur la question de l'État fédéral, je vais d'abord préciser que l'Europe n'est pas une institution fédérale. C'est vrai qu'un certain nombre d'élus, et la Commission et autres, considèrent qu'ils agissent comme une institution fédérale.
Ursula von der Leyen, c'est...
Mais ils n'en ont pas le droit. Alors, sauf que, la grande différence entre un véritable État fédéral et l'Europe qu'on est en train de nous bâtir, c'est ce qui s'est passé, vous savez, contre nous, 2005. Vous vous souvenez de 2005 ?
Bien sûr, la Constitution.
La nouvelle Constitution européenne que nous avons refusée et que Sarkozy nous a fait adopter malgré nous. Sous la forme de ce qu'on a appelé le traité de Lisbonne. Eh bien, le traité de Lisbonne de 2007, puisque deux ans plus tard, ça s'est passé. Le traité de Lisbonne de 2007, il a fait quelque chose de fondamentalement grave. Il a inversé le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que, dans le principe, quand les chefs de gouvernement ont créé l'Union européenne, à l'époque, c'était la Communauté européenne, donc Adenauer, Gasperi...
La Communauté économique européenne.
Alors, c'était économique européenne
au départ. Parce que c'était
départ,
pas politique.
Absolument.
Oui, oui.
Mais c'est vrai qu'il y avait eu déjà, quand même, l'idée de la défense, la communauté
l'Euratom,
de défense,
oui.
Il y avait eu l'Euratom, il y avait plein de choses. Bon, mais donc, quand ils l'ont fait véritablement dans le principe de la vraie subsidiarité. La vraie subsidiarité, c'est quoi ? Je vais vous donner une phrase de l'un des fondateurs de la subsidiarité, enfin, il y a contribué avec d'autres, qui est l'évêque Mgr von Kettler, en Allemagne, qui s'est rebellé contre l'État-providence que voulait créer Bismarck, le Kulturkampf. Ce que disait Kettler, c'est simple, la subsidiarité, c'est en bas tout le possible, en haut, tout le nécessaire. En quelques mots,
c'est très bien dit.
Voilà. En bas, tout le possible. En haut, tout le nécessaire.
Et seulement le nécessaire.
Le nécessaire, c'est seulement le nécessaire. Voilà. Si c'est nécessaire, c'est que c'est seulement le nécessaire. C'est presque un pléonasme, si vous me permettez.
Oui, oui.
Donc, en réalité, c'était ça l'Union européenne. Et le traité de Lisbonne, il dit exactement le contraire. C'est-à-dire, et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, il nous trahit sur les mots, parce qu'il nous dit l'Europe est subsidiaire, et la subsidiarité, c'est la chose suivante.
Ce que l'Europe ne
traite pas. Ce que les institutions européennes peuvent faire, elles le font, et ce qu'elles jugent bon de laisser faire aux États membres, elles leur disent de le faire. Donc, c'est exactement l'inverse.
Exactement.
Et c'est ça dont nous souffrons, et c'est pour tous les mots que vous dénoncez, cher... auditeurs, je pense qu'ils viennent de là.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est très simple. Il faut réviser les traités européens pour renverser la subsidiarité. Et sinon, nous ne nous en sortirons pas.
Or, ce n'est pas ce que veulent ceux qui tiennent l'Europe, en particulier Macron.
Alors, je vais vous dire...
Lui, il veut un État fédéral parce qu'il veut en assumer la charge, évidemment.
Macron, évidemment, ne veut pas ça. Alors, je vais simplement rajouter, parce que c'est très important la question que vous posez au fond.
Oui.
Je vais ajouter que par comparaison aux États-Unis, puisque vous faites la comparaison avec les États-Unis, qu'aux États-Unis, il y a encore une vraie subsidiarité. C'est l'exemple de l'avortement, pour ceux qui ont écouté le début de notre émission, que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que la Cour suprême a dit, cette question de l'avortement, dans la Constitution, on ne dit pas que c'est à l'État fédéral. Donc si on ne le dit pas, c'est que c'est en bas. En haut, il n'y a que le nécessaire, que ce qui est écrit dans la Constitution. À l'inverse de ce qu'on dit en Europe. Bon. Et donc, en fait, c'est ça la grande différence. Et il faut revenir à une vraie subsidiarité en Europe pour retrouver, j'allais dire, une dynamique et une vie plus normale.
Merci, Jean-Philippe. Je crois que nos auditeurs sont très, très contents de cette manière d'aborder nos questions. Alors maintenant, je voudrais que nous passions à un autre sujet qui est la situation politique de notre pays. Parce que je crois que vous vous intéressez à la politique.
Un petit peu.
Et moi, je la trouve épouvantable aujourd'hui. Épouvantable. Je trouve que le pouvoir législatif, c'est plus qu'une dérision. Qu'est-ce qui représente la France là-dedans ? Ben, je ne sais pas, je vous pose la question. Et puis, le chef de l'État, ce n'est plus un arbitre. Il y a 10 quinzaines d'articles, 14 articles, je crois, pour la présidence de la République dans la Constitution de la Ve République, qui sont les seuls articles à peu près bien rédigés, parce que De Gaulle pensait à lui. Mais moi, j'ai mon opinion sur le général De Gaulle. Mais toujours est-il que ces articles sont impeccablement rédigés. Mais aucun président de la République et aucun prétendant à la présidence de la République ne répond aux définitions qui sont posées dans ces 10 articles, ces 15 articles. En particulier arbitre. Comment voulez-vous qu'un homme qui est dans la compétition pour un poste suprême puisse être ensuite un arbitre? Ça n'existe pas. Enfin, donc, du point de vue législatif, du point de vue exécutif, puis qu'est-ce que c'est que depuis que nous avons le quinquennat, qu'est-ce que c'est que le chef de gouvernement? C'est le cornu, c'est-à-dire c'est un valet, quoi. C'est rien d'autre qu'un homme qui permet au président de durer. Enfin, quelle est sa fonction? En principe, d'après la Constitution, il a quand même une responsabilité de gouvernement, etc. Et alors, ne parlons pas du pouvoir judiciaire, plutôt si, parlons-en de l'autorité judiciaire, parce que vous avez affaire à ces messieurs. Qu'est-ce que vous pensez les prétendus trois pouvoirs dont Montesquieu nous disait qu'ils étaient indispensables pour qu'un pays soit bien gouverné?
Vaste question, cher Hilaire
oui,
de Crémier.
Mais je la pose et je pense que nos auditeurs seront passionnés.
Et je vais commencer par être un tout petit peu pessimiste. Oui. Nous avons les dirigeants que nous méritons.
Alors là, je suis complètement d'accord.
Et en réalité, qui aujourd'hui a envie de faire de la politique? Moi, je vois, dans mon métier, dans un certain environnement, les jeunes de qualité. Il y en a quelques-uns qui sont passionnés par la politique parce qu'ils ont des convictions fortes et qui ont envie d'y aller. Mais sinon...
qui vont se battre.
Et eux, ils vont se battre. Mais il n'y en a quand même pas beaucoup.
Non.
Et aujourd'hui, ceux qui vont faire de la politique, c'est pour gagner 3 sous. C'est pour être rémunéré.
Mais c'est pour vivre sur la bête.
Pour vivre sur la bête. Enfin, c'est pas ça la politique, normalement. Qu'on indemnise, aujourd'hui, je comprends, mais ça ne devrait être qu'une indemnité.
Mais bien sûr.
Et moi, je serais presque partisan de dire, les parlementaires, mais il faut les payer le SMIC, puisqu'ils considèrent que le SMIC, on peut vivre avec le SMIC. Eux, ils ont le SMIC. Et puis pour le reste, qu'ils travaillent. Mais vous savez, en Suisse, on parlait de la Suisse tout à l'heure,
oui.
Les parlementaires, ils ont un travail. Et puis ils ont des sessions, comme ça se faisait sous... vous parliez,
oui.
Je crois, de Tocqueville tout à l'heure.
Oui.
Eh bien, oui, au milieu du 19e siècle, les députés n'étaient pas rémunérés.
Non.
Alors, je comprends que, qu'il y ait une indemnité, je le comprends, parce qu'il faut quand même permettre à tous de pouvoir...
Mais ça devient un métier de
mais faire ça devient
de la,
un métier.
De faire de la politique aérienne.
Ça ne devrait pas être un métier. Ça ne devrait pas être un métier. Ça devrait être une fonction.
Une charge.
Et une fonction de service.
Bien sûr.
Voilà. Alors, ceci étant... les temps modernes sont les temps modernes. Donc, il faut les vivre de cette manière. Mais vous posiez en même temps une question sur la division des pouvoirs. Alors ça, je crois que c'est fondamental, malgré tout. Je crois que c'est fondamental. En même temps, c'est très compliqué. Alors, on vit effectivement sur la vieille distinction anglaise, finalement, que Montesquieu...
Oui, à reprise.
À reprise. Mais... Si vous voulez, c'est très important parce que pourquoi l'Angleterre a servi d'exemple et de modèle? Parce que l'Angleterre a été le premier pays de notre Occident européen à être attentif à l'état de droit.
La Grande Charte.
La Grande Charte, 1215. La Grande Charte. Donc... la Grande Charte, c'est pour nos auditeurs, parce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est simple. C'est en fait Jean sans terre qui avait besoin d'argent, parce qu'il se battait contre nous, hein,
oui.
Et il perdait toutes ses guerres, alors en plus. Donc il avait besoin d'argent, et les seigneurs lui ont dit, écoute, maintenant, ça suffit. On veut plus t'en donner. Bon, enfin, on est prêt à en discuter. Alors ils se sont réunis, et les seigneurs, les barons, et puis les représentants des villes, on dit à Jean sans terre, Bon, on veut bien donner de l'argent pour continuer tes guerres, parce que c'est vrai qu'il faut bien défendre notre territoire, mais à une condition, c'est que tu t'engages à ce que, à l'avenir, il n'y ait plus de nouveaux impôts sans notre accord.
Voilà.
Et qu'on va en profiter pour aller plus loin, parce qu'on ne veut plus de tes exactions non plus. Donc, plus d'emprisonnement sans qu'il y ait des lois qui le permettent, qui le prévoient, etc., etc. Donc, c'est l'habeas corpus, vous savez, la protection des individus. Donc, pas d'impôt sans consentement, pas de peine, de pénalité sans texte, etc. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. Et l'état de droit, c'est quelque chose qui doit être défendu de manière indépendante, parce qu'il ne faut pas que le gouvernement...
Celui qui définit l'état de droit.
Puisse définir l'état de droit, sinon ce n'est plus un état de droit. Voilà.
Non, bien sûr. Oui.
Et c'est pour ça que c'est très important.
C'est ce que Macron veut faire. Non seulement définir l'état de droit, mais définir l'information qui doit être donnée sur l'état de droit.
Ah ben bien, oui.
Il veut tout contrôler, là.
Macron, il n'y a pas que lui, parce que c'est avant Macron déjà qu'on a... on parlait de l'avortement tout à l'heure. Sur l'avortement, par exemple, vous savez que... aujourd'hui, quelqu'un qui cherche à convaincre une personne de ne pas avorter peut aller en prison parce que elle commet un délit.
Comme demain, celui
et demain, ce sera pareil pour l'euthanasie.
Oui.
Et ça, c'est voilà un exemple qu'il aura raison de souligner de contre-état de droit, d'anéantissement de l'état de droit par justement la confusion des pouvoirs. Parce que le droit, en fait, n'est pas théoriquement, le droit n'est pas la loi. Oui. Le droit, c'est finalement l'ensemble de règles qui se bâtissent peu à peu par le respect des hommes à l'égard de ces règles. C'est-à-dire que c'est la tradition qui...
La coutume.
La coutume. C'est
les mœurs.
Les mœurs qui, peu à peu, sélectionnent les bonnes lois pour bien vivre ensemble et les bonnes règles. Et le rôle du pouvoir législatif, c'est de venir l'ordonner, l'écrire... comme la charte dont on parlait l'a écrit, pour que les choses se passent bien et que tout le monde, que ce soit clair. Et ça, c'est bien, c'est une bonne chose d'écrire les lois. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas de loi. L'Occident est né sur les 12 tables de Rome en 451-449 avant Jésus-Christ, 12 grandes tables de pierre sur lesquelles on a écrit des lois qu'on connaît, qu'on a retrouvées, qui étaient à peu près celles de la Grande Charte, d'ailleurs, et qui étaient très simples, mais qui ont été fondatrices. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut un pouvoir judiciaire, un pouvoir du droit, qui soit indépendant. Ça, c'est très important. Pour le reste, il faut, je crois, aussi un pouvoir législatif qui soit également indépendant. Mais, en fait, le vrai problème du pouvoir législatif en France, c'est qu'il se perd lui-même. Il se perd en voulant légiférer sur tout.
Sur tout.
Et donc, on va lui demander, on devait faire une réforme, une grande réforme, il faudrait lui demander de redevenir, finalement, un législateur de l'essentiel. Et que pour le reste, on puisse se débrouiller. Et quand il y a un litige, ça va devant les tribunaux.
Parce que vous connaissez ça, l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation législative.
C'est épouvantable.
Non seulement c'est épouvantable, mais en plus de ça, ce sont des lois de plus en plus mal rédigées.
Absolument.
De moins en moins claires.
De moins en moins claires, voilà, c'est ça.
Ce qui fait que le citoyen n'est plus protégé, parce que la première des protections, c'est de savoir ce à quoi on a droit et ce à quoi on n'a pas droit.
Absolument. Mais ceci dit, voilà, moi je crois qu'il faudrait revenir à une politique plus minimale. Une politique plus limitée.
Moins d'arrogance et moins d'importance, notamment dans la présidence de la République. On en fait une espèce de chef suprême qui se croit du coup infaillible, qui se croit impeccable, enfin qui se croit revêtu des attributs de l'infaillibilité.
Exactement. Alors que
c'est rien du tout. Enfin, c'est un homme comme nous.
Et absolument.
Donc, on se connaît nous-mêmes, on sait nos limites. Enfin, ces gens-là. Alors, sous prétexte qu'ils ont des gendarmes qui leur ouvrent la porte, des huissiers qui les saluent, non, mais je pense que ça les rend fous, d'ailleurs.
Mais c'est-à-dire
qu'une fois qu'ils ont goûté à ça,
ils ne peuvent plus s'en passer et ils se croient totalement inaccessibles.
Enfin, c'est l'affaire Epstein. Hein.
Qu'est-ce que c'est un peu. Il y a un côté.
C'est pratiquement les dirigeants du monde qui se retrouvent.
Mais la,
dans la même corruption, la même, le même mépris de l'autre, le même, la même volonté de jouir de tout, et que de penser que tout leur est permis parce qu'ils sont, ils sont au-dessus des autres.
Je pense qu'il y aurait moins d'affaires Epstein s'il y avait des pouvoirs moins absolus. Parce qu'il y aurait moins à corrompre.
Oui.
Il y a toujours plus de corruption quand il y a tout à corrompre. C'est pour ça que les régimes communistes, par exemple, étaient très, très corrompus. Mais à un point que personne ne peut imaginer. Parce qu'en en fait, on ne pouvait obtenir... On n'avait rien, mais si on pouvait avoir tout en corrompant. Et donc, il y avait de la corruption partout. C'est d'ailleurs pour ça que, tant la Russie que l'Ukraine, et tous les autres pays qui viennent de là, ont gardé des habitudes de corruption dont ils ont de la peine à se passer. Parce qu'il est toujours plus difficile de tuer les poissons du vivier pour en faire de la bouillabaisse plutôt que de prendre la bouillabaisse pour en refaire un vivier. et là, on comprend pourquoi, après trois générations de communisme corrompu, eh bien, il a fallu beaucoup... Enfin, ça a été très difficile, et c'est toujours très difficile, de revenir à une société libre, bonne.
Merci Jean-Philippe, parce que c'est, je pense que c'est... Beaucoup de nos auditeurs et beaucoup de Français aujourd'hui sont extrêmement inquiets de la situation et sentent bien qu'il y a, du côté même de nos institutions, une insuffisance tragique. Elles sont dévoyées.
Il faut revenir à la vraie politique. La vraie politique, qui est passionnante, c'est en fait celle qui cherche à permettre aux gens de vivre ensemble.
Oui. Oui.
Mais à leur permettre de vivre ensemble en leur permettant de gérer leur vie.
Oui, bien sûr.
Pas en leur supprimant la maîtrise de leur vie. Donc en fait, il faut rendre aux gens la maîtrise de leur vie.
Beaucoup
et vous verrez que la politique sera différente.
Beaucoup de questions, alors je les prends pas toutes. Hein. On voit des députés, sénateurs et même des représentants de l'État nommés être pris la main dans le sac pour consommation de drogue. Ne pensez-vous pas que la décadence de la France commence par la décadence des valeurs morales, à savoir ne plus avoir peur de franchir les interdits, même ceux dictés par la loi ?
Vous avez évidemment raison. Alors moi, je vais.
C'est une question de bon sens.
C'est une question de bon sens. Alors je vais d'abord dire une chose. Vos auditeurs, chère Hila, me trouveront peut-être un peu trop modéré, mais je pense qu'il faut aussi se rappeler que nous sommes tous des hommes avec un grand H, hein, des hommes, des femmes imparfaits, et que donc nous ne pouvons créer que des sociétés imparfaites, et que dans toute société, depuis que les hommes existent, il y a des incorrections, des imperfections qui se manifestent. Il y a toujours eu des gens qui vivent dans les marges ou qui passent les lignes rouges. Voilà. Bon. Alors ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Au contraire, Mais je vais simplement dire que je partage ce que vient de dire cet auditeur. Et tout ça commence par la famille. Quand il y a une bonne éducation, c'est plus facile après. Quand il n'y a plus de famille.
C'est le drame aujourd'hui.
Quand il n'y a plus de famille.
Oui, c'est le drame aujourd'hui.
Alors, pendant un moment, en fait, on ne s'en est pas aperçu tout de suite que la famille disparaissait. Parce qu'il y avait encore l'école et il y avait encore les grands-parents. Les grands-parents, ils vont disparaître, enfin ceux qui avaient ces qualités-là. Et l'école, on sait aujourd'hui que c'est plus grand-chose. Tout n'est pas de la faute des enseignants.
Non.
Parce que les enseignants eux-mêmes sont mis dans de telles situations, on les empêche tellement d'exercer leur autorité que finalement, ils abandonnent et on peut les comprendre. Donc, en fait, il faut reconstruire tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment redonner une reconnaissance à la famille en lui laissant la liberté de gérer sa famille, les enfants. Et il faut surtout, retrouver le moyen, et je crois que ça existe, de faire en sorte que les écoles revivent.
Oui,
Voilà, revivent, retrouvent.
Mais là, c'est la même chose. Est-ce que c'est à l'État de gérer intégralement l'éducation nationale ? Moi, je suis persuadé qu'il a été, dans le fond, un mauvais éducateur.
Bah, évidemment.
Et même un mauvais professeur.
L'État n'a, là aussi, de rôle que subsidiaire. Que l'État s'assure que tous les enfants puissent accéder au niveau d'enseignement, je ne dis pas d'éducation, qu'ils méritent en fonction de leurs capacités, bien moi sûr. Je trouve ça très bien.
Ça, mais ça, c'est ce qui s'appelle l'État n'a pas besoin. Contrôle, ça.
Mais l'État n'a pas besoin d'embaucher les enseignants,
de fixer les programmes.
De fixer les programmes, d'avoir les immeubles des écoles, etc.
De dire qu'il faut enseigner la sexualité à l'âge de 3
absolument.
Ans aux gosses qui viennent.
Et donc, alors, on ne va pas sortir tout de suite et facilement du système actuel. Mais pour au minimum, faisons en sorte que les écoles retrouvent la liberté, c'est-à-dire permettons que des écoles puissent se créer,
oui.
Que des écoles puissent délivrer les diplômes.
Ils s'en créent de plus en plus. Voilà,
mais l'État garde le contrôle des diplômes. Donc il faut libérer les diplômes. Il faut que, alors, que l'État, par exemple, là, ce qui se fait à peu près partout dans le monde, conserve un contrôle de
la
qualité du diplôme.
Voilà.
Pourquoi pas
oui.
Mais le baccalauréat, il peut y en avoir un organisé par l'État, à la limite au niveau national, mais que tout le monde, ça existe aujourd'hui, tout le monde doit pouvoir amener ses enfants, ses élèves, pour passer le diplôme du baccalauréat. Mais par contre, pour les licences, par exemple, les masters, les doctorats, etc., ben non, aujourd'hui, il n'y a que l'État qui peut les délivrer. Ben, c'est un scandale.
Bien sûr que c'est un scandale.
Et du coup, d'ailleurs, comme l'État n'a plus les moyens,
la France est le dernier pays au monde qui fait ça.
Le dernier pays au monde, absolument.
En Allemagne, l'éducation relève des Länder et non pas de.
Oui, alors il y a beaucoup plus de. Alors il y a quand même un certain contrôle, effectivement, au niveau de la qualité. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en plus, le droit européen, l'Union européenne a parfois des qualités, et notamment le droit européen, qui impose, en principe, qu'il puisse y avoir liberté de création d'écoles. Et concurrence entre les écoles et les universités. Et en fait, l'État français ne respecte pas ces règles. Mais personne n'ose l'attaquer.
Personne.
Il faut l'attaquer.
Je vois le temps passer. Il ne nous reste plus que quelques minutes, 9 minutes. Les médecins praticiens hospitaliers ne sont pas fonctionnaires. Ils touchent la retraite du régime général. Quelqu'un qui vous fait cette
remarque. Ah ben alors écoutez, dites-moi, alors que cette personne me dise qui fait partie des 2 millions de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Mais non, mais il y a dans les hôpitaux publics des médecins qui sont contractuels, comme dans la fonction publique d'État d'ailleurs. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en a 20% en moyenne. Donc effectivement, un certain nombre d'entre eux payent, quand ils sont contractuels, au service général, c'est-à-dire, en fait, ils sont comme un salarié ordinaire. Mais ça ne représente une petite minorité.
C'est ça. Alors, dans un reportage de l'émission Envoyé spécial sur France 2, on apprend que dans des 2/3 des établissements de l'aide sociale à l'enfance, une majorité de mineurs de plus de 12 ans se prostituaient. Dites-moi pourquoi les Français ne se révoltent-ils pas contre le pouvoir en entendant la gravité de ces faits ? Etc. Bon, je passe parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas tout lire. Le rôle de l'État n'est-il pas de protéger, etc. Mais bien sûr,
c'est comme le scandale
du périscolaire à Paris. Enfin,
Exactement. Mais le problème, c'est qu'on embauche des gens qui n'ont pas les qualités.
Bien sûr. Alors là, une question sur la dissuasion nucléaire, puisque vous avez soulevé la question. Armée et défense coordonnées avec nos voisins, si ce sont nos alliés.
Bien sûr. Pourquoi pas.
La dissuasion met en jeu l'existence même du pays. C'est sa nature profonde, elle ne peut donc se partager. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Le fait d'appuyer sur le bouton, ça ne peut être qu'une décision unique.
Oui, je suis d'accord.
C'est chacun pour soi. Israël est bien plus petit que la France, tout est question de volonté politique, pas de dissolution dans un machin informe. Qui peut croire que les États-Unis risqueraient de voir New York ou Los Angeles vitrifié pour défendre un pays de l'OTAN? Ben oui, c'était cette question qu'on se pose depuis maintenant plus de 50 ans. Quel président américain porterait cette charge? Les histoires de parapluies ont perdu toute crédibilité dès 1949, quand les États-Unis ont cessé d'être les seuls à posséder la bombe H, dont la puissance est quasi illimitée. L'ère de la destruction mutuelle assurée a suivi.
Ouais, c'est un très vaste problème. Ce que je répète et que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est que, en fait, on s'aperçoit quand même qu'un pays comme la France n'a pas les moyens de disposer par elle-même d'une armée suffisamment complète, suffisamment forte pour faire face au monde entier. Des pays en guerre, comme Israël, sont arrivés à monter une armée extrêmement importante et puis, en termes de force, mais ils ne l'ont fait qu'avec le soutien américain, sinon ils ne seraient rien.
Bien sûr, avec un service militaire.
Et avec un service militaire extrêmement prégnant. Enfin,
continu.
Donc, si vous voulez, voilà. Et donc, soyons aussi un petit peu réalistes, pragmatiques. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, simplement, c'est que, bien entendu, on ne peut faire ça qu'avec des alliés. Mais avec des alliés, je pense qu'il faut réfléchir à et se projeter dans l'avenir avec des gens qui ont vocation à rester alliés
et définir des objectifs
de manière durable. Voilà, réfléchir ensemble sur les moyens qu'on peut mettre ensemble pour se défendre ensemble si un jour on est attaqué.
Alors, maintenant, il nous reste quelques minutes. Combien là, il est marqué... Oui, non, c'est pas exact. Il reste 4 minutes, je pense. Bien, vous allez conclure.
Ah, puis-je conclure?
Ah oui. Nous avons eu un bon entretien, là. Et écoutez, je pense qu'il a passionné, puisqu'on a reçu des foultitudes de remarques et d'observations.
Alors, j'espère que, effectivement, ça a intéressé nos auditeurs. Si je devais conclure, je vais par contre essayer de me définir à la fois sur le plan politique et philosophique, puisque c'est là-dessus qu'apporter notre entretien.
C'est ça ce que je
entretien.
Vous demande.
et donc, je vais essayer d'expliquer à nos auditeurs, et certains vont dire « Oh, quelle horreur !» pourquoi je me considère comme libéral. Libéral, j'ai dit, et conservateur, mais libéral aussi. Parce que le libéralisme, c'est précisément ce système qui permet aux individus de se réaliser par eux-mêmes. Et je pense que le plus important pour nous tous, c'est pour ceux qui en ont les moyens, parce que certains n'ont pas la capacité mentale, physique, de le faire, hélas, et ils en souffrent probablement, mais la très très grande majorité d'entre nous, ont une capacité, chacune à son niveau. Mais ce qui peut exister de mieux pour nous, c'est de réaliser ce que nous pouvons. C'est pas de recevoir des choses que nous ne méritons pas. C'est de les acquérir par nous-mêmes, de travailler pour les obtenir. Et on en profite bien mieux et bien plus dans ce cas-là. Eh bien, voilà, c'est la raison pour laquelle je pense que
quel serait votre philosophe, votre économiste du 19e siècle que vous choisiriez un peu comme, on va dire, comme lumière ou comme maître à penser?
Alors,
Bastiat
vais... Alors, comme économiste, incontestablement, Bastiat est le plus intéressant.
Oui.
C'est celui qui a des formules lapidaires. Bastiat, qui siégeait à gauche dans l'Assemblée de 48.
Oui. Aujourd'hui, il passerait ultra-droite.
Sans doute. Mais ceci dit, pour tout vous dire, il y a beaucoup de gens qui siégeaient à gauche. Hein.
Oui, bien sûr.
Victor Hugo, Lamartine, Tocqueville siégeaient à gauche. Donc, c'est assez amusant, on ne comprend pas. Alors, moi, je dirais
Tocqueville qui emmenait ses paysans en procession pour aller voter.
Voilà, c'est ça.
On ne raconte pas ça.
Et donc, si vous voulez, Bastiat, oui, est incontestable. Moi, je conseille à tous les auditeurs de lire Bastiat. C'est vif, drôle. Parfois, il a des comparaisons imagées qui sont tout à fait... facile à comprendre, qui permet de comprendre très facilement l'économie.
Et il a vu venir déjà l'État socialiste.
Mais il a vu venir l'État socialiste, comme Tocqueville, les derniers mots du second tome. Alors, ceux qui ne connaissent pas Tocqueville, lisez le deuxième tome de La démocratie, le dernier chapitre. En 20 pages, vous comprendrez Tocqueville, et c'est exceptionnel.
Il a tout prévu.
C'est exceptionnel, voilà. Oui. Et puis, si je devais faire référence plutôt à des juristes et à des philosophes, je dirais que je me retrouverais avec les vieux Whigs. Les Whigs, ce sont les libéraux anglais. Oui. Et avec Burke. Voilà, Burke. Burke est un type extraordinaire.
Ah bah oui.
C'est un homme qui était un Whig, donc un libéral anglais.
Son analyse de la Révolution est remarquable.
En 1989, en 1789, pardon, la Révolution éclate en France. Et lui, il suit ça. Et dans les premiers mois de la Révolution, il écrit un ouvrage sur la Révolution qui dit tout de la Révolution. Il annonce...
ce qui va se passer.
Il le fait. Donc, les premiers mois, les Girondins sont au pouvoir. Et c'est une révolution dont on profite aujourd'hui. Je veux dire que dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a des choses qu'on peut critiquer. Il y a un certain nombre de choses qu'on considère comme bonnes aujourd'hui, même si elles annoncent la Déclaration de 1793. Mais lui, il voit ça tout de suite. Il le voit. Et il est exceptionnel.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup Jean-Philippe. Et puis, nous recommencerons.
Quand vous voulez.
Vous voulez bien. Et bien, je remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. Je pense que nous avons fait une bonne soirée et nous avons abordé beaucoup de questions. Et je vous remercie pour votre attention. Et on se dit à la prochaine fois. Je crois que la prochaine fois, en principe, nous devrions avoir Marion Maréchal Le Pen.
Elle est plutôt maréchale, tout
court. Oui, elle est maréchale.
Aujourd'hui.
Au revoir, chers auditeurs, et merci beaucoup.
D'entendre le libre journal de Jacques Trémollet de Villers, dirigé par Hilaire de Crémier, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 26 février 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.